Chapitre 2. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais conduire une Bentley avait pourtant des vertus apaisantes. À Los Angeles, les embouteillages de fin de journée durent facilement 4 heures. Et si la Californie avait longtemps été célébrée pour la qualité de ses autoroutes, ce n'était plus le cas, ce qui n'empêchait pas la Bentley de se jouer des nid de poule avec sa suspension royale. C'était bien le problème avec les gens comme Overton. Ce n'était pas son argent qu'il avait corrompu, mais la façon dont il avait décidé de dépenser sa fortune. Il avait commencé par s'isoler du quotidien et, à force de se juger supérieur aux masses, il avait trouvé naturel de museler sa conscience en estimant que la vertu était bonne pour les esprits primitifs et superstitieux. Finalement, il représentait une tumeur maligne dans le tissu de la société. Si la Bentley calmait Jane, elle n'apaisait en rien son indignation qui se transformait peu à peu en colère froide. Les locaux d'Aspasie étaient voisins de San Marino, un ensemble de belles villas et de grandes propriétés aux portes de Pasadena. Le GPS de la Bentley conduisait Jane de la même voie sans timbre qui l'aurait conduite jusqu'à une librairie ou une église. D'après Overton, l'antenne de Los Angeles, la neutralité même du terme la révulsait, était installée dans une propriété de plus d'un hectare. Le GPS lui conseilla de quitter la petite rue résidentielle sur laquelle elle avançait et de tourner à gauche à hauteur d'une allée privée. Les phares de la Bentley s'arrêtèrent sur un portail métallique ouvragé, haut de 3 mètres, qui empêchait de voir la maison et le jardin. La propriété était protégée par un mur de pierre couvert de lierre, coiffé à son faîte de pics métalliques. Aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres, qui se contentait d'identifier le numéro de rue. Jane baissa la vitre côté conducteur, examina l'interphone et observa les alentours sans distinguer la moindre caméra. Overton ne lui avait pas menti. Elle entra les 4 chiffres indiqués par l'avocat sur un digicode surdimensionné, puis composa son mot de passe, Vidar, du nom du dieu de la vengeance dans la mythologie nordique, connu pour avoir survécu à la bataille apocalyptique de Ragnarok. Tout en regardant les battants du portail s'ouvrir lentement, elle se demanda ce qui avait bien pu pousser ces fous dangereux à choisir le nom d'un dieu païen. Elle sortit son éclair Hancock, à l'extrémité duquel elle vissa le silencieux avant de le poser sur le siège passager à portée de main. Overton n'avait rien à gagner à ce que Jane ne revienne pas, si bien qu'il lui avait probablement dit la vérité. Cette histoire d'agent de sécurité programmé lui aurait paru absurde si elle n'avait pas visionné ses souris blanches sur la vidéo de Schenek. Il ne s'agissait pas simplement pour elle de reconnaître les lieux ou de faire une enquête. Derrière ces murs, se dissimulait un secret terrible qu'il lui fallait élucider. Elle hésita à s'aventurer plus loin, pleine d'appréhension. Mais elle n'avait pas le choix si elle ne voulait pas qu'on la prenne pour une folle paranoïaque. Quand bien même elle aurait réussi à convaincre ses amis, elle aurait mis leur vie en danger en réclamant leur aide. Overton en savait plus qu'il n'avait bien voulu le dire, mais il aurait fallu qu'elle le torture pour l'obliger à parler, et ce n'était pas dans sa nature. Elle tira de sa poche le médaillon ovale donné par son fils.
« J'ai tout de suite su que c'était un porte-bonheur », lui avait expliqué Travis.
Elle caressa du pouce le profil de femme qui ornait le bijou, puis serra le médaillon dans son poing. Elle finit par le remettre dans sa poche et franchit le portail au volant de la Bentley, en ayant la prémonition qu'elle devrait se battre pour repartir.